Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode du Balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier. Je suis Ingrid Bardot, professeure à l'Université de Montréal, hôte du Balado, et je suis en compagnie de Krishna Martineau, enseignante. Bonjour Krishna.
Bonjour, contente d'être retrouvée.
Contente de te retrouver aussi. Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Ingrid, bien contente d'être avec toi aujourd'hui.
Merci d'être là. Alors, on se revoit pour la troisième fois pour continuer à parler de la voix, du mystère de la voix, mais aussi on a abordé dans l'épisode dernier les troubles de la voix. Et on s'était laissé un petit peu sur, je crois Krishna, c'est toi qui as dit que tu comprenais pas, qu'il y avait pas plus finalement de sensibilisation parce qu'on pouvait aussi agir en prévention aux troubles de la voix. Et ouais, ça m'a totalement fait penser à un échange qu'on a eu avec trois futures enseignantes, justement. Je vous propose d'écouter Léa, Tania et Ariane. Ce sont des étudiantes à l'université de Sherbrooke et elles répondent à la question si elles savent vers qui aller si on a un trouble de la voix.
Ben moi, j'aurais dû un orthophoniste parce que j'ai mes amis, elle s'est fait enlever les amygdales, puis elle avait des devoirs, genre, puis tout. Fait, mais juste à cause que je le sais, mais sinon, je ne saurais aucunement où aller, là.
Moi non plus, je sais pas. Je serais allée voir l'oncle Aléa.
Mais moi aussi, je pense arrêter ma ressource numéro un. Mais sinon, je sais pas qui aller voir comme professionnel, si je peux dire. J'ai jamais entendu parler de ça dans mes cours, là. Moi, c'est ça, c'est parce que j'étais essoufflée. Puis là, j'étais allée chercher mon oncle, vu que je savais qu'il faisait des cours d'addiction, là. Fait que je pensais qu'il allait m'aider, puis il m'a vraiment aidée. Mais j'ai jamais entendu parler ça dans mes cours. Ça n'a jamais été mentionné, là.
Ben nous, on a eu un cours d'autodidactie du français, là, mais c'est plus ancré sur genre l'apprentissage puis les élèves. Puis on parlait énormément des troubles, justement, de la voix, les troubles linguistiques des élèves engagés et tout, mais pas nécessairement du côté enseignant, puis ça a moins rapport dans notre cursus scolaire, je veux dire ça comme ça. Mais nous aussi, les enseignants, on peut avoir des difficultés. Bon, là, tu sais, je veux dire, des trucs, ça peut toujours être pratique à long terme, surtout dans une lignée où est-ce qu'on va faire comme 30 ans d'enseignement qui va être notre outil principal. On n'a jamais effleuré le sujet des enseignants, là.
Ouais, surtout qu'on a énormément de cours, tu sais, par exemple, théorique, pratique, là, qui joint les deux. Ces cours-là, ce qu'ils essaient de nous enseigner, c'est que ça va être quoi sur le terrain qu'on voit pas nécessairement dans nos cahiers, là. Puis c'est quelque chose, c'est une réalité, là. Tu sais, c'est pas rare, là, qu'on a vu des enseignants qui avaient des difficultés ou, fait que ça pourrait vraiment être intéressant, surtout dans ce type de cours-là, de l'ajouter, là.
Ouais. Non, ça serait vraiment bénéfique de juste savoir, puis il n'y a pas besoin d'aller loin, là, juste de savoir la base, puis de, je pense que ça serait bon de juste mettre des outils aussi comme pour prévenir et pour guérir si jamais quoi que ce soit arrive.
Je pense que ces étudiantes-là ont compris là, que ça aurait sa place dans le cursus là, universitaire. Puis je trouve que ça va même dans le sens que c'est une forme de gestion de classe, hein, l'utilisation de sa voix. Donc, ça pourrait faire partie de ce genre de cours-là parce que la place qu'on a dans la classe, la présence qu'on a dans la classe, ça peut être par la voix, mais par la présence physique aussi. Donc, ça pourrait être une optique intéressante.
C'est intéressant parce que les jeunes enseignantes, les jeunes étudiantes qu'on vient d'entendre, il y en a une qui disait « Ah, tu sais, ça a moins sa place dans notre cursus par rapport à, tu sais, l'enseignement et tout ça. » Mais moi, je vais revenir avec mon analogie du sport, là. Tu sais, un athlète professionnel, là, qui fait ça de sa vie, là, il fait pas juste pratiquer du hockey pour jouer du hockey. Il fait aussi de la préparation physique pour être meilleur au hockey. Il fait aussi de la préparation mentale pour être meilleur au hockey. Donc, c'est important, moi, je trouve, d'identifier que ça fait partie de la préparation de l'enseignante, de dire que je travaille à préparer ma voix, je travaille à être consciente de ma voix, de comment l'utiliser, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur ma voix.
Et je trouve que c'est ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est oui, une préparation physique, mais aussi une préparation mentale. Et l'athlète apprend à prendre soin de lui ou d'elle pour durer dans sa carrière d'athlète. Mais de ce qu'on entend de ces trois étudiantes là, c'est que il n'y a pas de place pour comment est-ce que l'enseignant, c'est quelle mesure est-ce que l'enseignant va mettre en place pour durer pendant ses 30 ans de carrière? Il n'y a pas de place qui est donnée à ça dans le cursus. Et puis ça mène à quelque chose que tu nous disais, Krishna, quand tu nous parlais, mais justement, t'évoquais juste avant le balado, tu t'évoquais que t'avais un petit souci avec ta voix pour le moment suite à un rhume, quelque chose, et que t'as pris congé hier, puis que ça t'a, tu sentais comme un frein de le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu venais de nous dire?
Mais c'est sûr que quand on prend congé, ça a des répercussions sur nos élèves, puis on sent qu'on a besoin d'être là pour eux, puis il y a plusieurs de mes collègues qui sont un petit peu ça, puis c'est long à préparer une journée où on s'absente, puis tout l'entourage de ça, mais c'est important de le faire, puis moi, je l'ai fait en prévention, justement. Et je me sentais fatiguée, je me sentais enrhumée, je me suis dit, bon, est-ce que c'est mieux d'aller à l'école ou bien de rester à la maison pour prendre soin de moi? Puis prendre soin de soi comme prof, pour moi, c'est vraiment un essentiel pour se préserver puis continuer à aimer ce qu'on fait. Là. Donc, c'est pas juste, c'est au-delà de la voix, là. C'est vraiment plus que juste ça. Mais
Et justement, ça, je pense que c'est ce qu'on voit après. Toi, Anne-Marie, tu nous diras en tant qu'orthophoniste, mais on a des personnes qui ont mis en avant leur métier, leur profession, qui ont pour mission, mandat et passion d'apprendre aux enfants. Donc, ils vont remplir ce rôle-là avant tout, puis ils vont se mettre eux-mêmes de côté. Donc, on a les gens qui disent, ben oui, ça impacte. Moi, je peux plus lire des histoires à mes enfants, mais je vais continuer à aller au travail et enseigner, par contre. Mais ça a déjà un impact sur ma vie professionnelle. Donc, mettre ses limites, c'est dur. Puis, j'ai déjà reçu des témoignages de personnes dans les milieux de l'éducation qui disent, ben, c'est un petit problème. Est-ce que c'est pas juste normal en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, éducatrice, d'avoir ce type de problème? Est-ce que tu reconnais ça, Anne-Marie?
Oui. L'effet de banaliser le problème de voix, parce que mon ami l'a aussi, ou parce que ma collègue aussi des fois par la voix, fait qu'il y a un effet de, tu sais, c'est normal, on banalise un peu. Oui, c'est ça, effectivement. Tu sais, les jeunes étudiants qu'on vient d'écouter, ils parlaient que, tu sais, ils sont conscients que leur voix, c'est leur outil de travail, mais ils ont aucune connaissance comment utiliser cet outil-là. C'est un peu comme si le charpentier avait personne qui y avait montré à utiliser sa scie. Est-ce que vous engageriez un charpentier qui sait pas utiliser sa scie? Moi, pour ma part, jamais, OK? Mais, tu sais, c'est ça, puis il va garder sa scie longtemps s'il l'entretient bien. OK, c'est encore grossier comme analogie, mais c'est une analogie. Ça nous permet de comprendre que c'est ça. On comprend en tant qu'enseignant que notre outil, c'est notre voix. Et là, l'effet qu'on banalise le problème, l'effet qu'on a une pression autour de nous, autour de notre milieu, du fait qu'on va s'absenter, du fait que c'est plus ou moins accepté d'avoir un trouble de voix. Donc, nous, les orthophonistes, dans le milieu des orthophonistes, la promotion de la voix, c'est pour nous une grande lacune. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? On parlait que les enseignantes avaient pas beaucoup de connaissances, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où on pourrait aller, nous, les orthophonistes? On est vraiment en train de réfléchir à ça. Comment, nous, on peut s'insérer dans le milieu des enseignants, justement, pour leur faire cette promotion-là que, oui, c'est votre outil et c'est doublement important d'en prendre soin pour bien comprendre, hein? Comment?
Ben moi, je pense que dans nos formations là, qu'on a au centre de service, ça aurait tout à fait sa place là, de pouvoir donner des formations aux enseignants. Je suis convaincue que mes collègues seraient toutes là parce que c'est arrivé à plusieurs d'entre elles, puis ça serait juste bénéfique d'en connaître davantage, autant sur la voix que toutes les cordes vocales, de mieux comprendre l'appareil en soi pour pouvoir mieux s'en occuper.
Je vous propose qu'on écoute le docteur Gagnon qui nous parle de ça aussi.
Ce n'est pas un petit problème. C'est pas un petit problème. Puis encore une fois, plus tôt, je discutais de l'aspect préventif versus l'aspect curatif. Il y a tellement de travail qui pourrait être fait du côté préventif, ne serait-ce qu'au niveau de la formation des gens, qu'on épargnerait beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances à plusieurs personnes si jamais on prenait conscience effectivement qu'ils travaillent avec ça tous les jours. Tout enseignant, de par le fait qu'il utilise sa voix de façon importante, qu'on ne lui a jamais montré comment l'utiliser, est à risque. C'est pas normal d'avoir mal en parlant, point. Si vous faites votre journée qu'à la fin de votre journée, vous avez mal à utiliser votre voix, ce n'est pas normal. La douleur ne fait pas partie d'une phonation saine et d'une utilisation adéquate de son larynx.
Quand on a mal au genou, là, on fait quelque chose, hein, parce que c'est dérangeant, ou quand on a mal dans le bas du dos, ça nous empêche de faire nos activités au quotidien, mais on dirait que la voix, c'est pas naturel, là, de se dire, ah, ben, il faut vraiment que je fasse quelque chose, là, maintenant.
Mm-hmm. C'est acceptable, c'est ça. Mais ça devrait pas l'être.
Exact.
Hein? Puis il a dit, la douleur, c'est pas normal. Hein?
C'est ça, c'est pas juste un aspect collatéral du métier d'enseignant. C'est pas normal. Et pourtant, on entend beaucoup ce discours-là de dire, ben là, c'est normal que j'ai des problèmes avec ma voix parce que
ben, je parle suis beaucoup, enseignant. Ouais.
Donc, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et surtout, c'est pas juste que c'est pas normal, c'est évitable.
Exactement. Le préventif.
Une fois que c'est là, c'est soignable. On n'est pas obligé de rester là-dedans. Ouais. Mais, Krishna, tu nous as pas encore dit, toi, tu nous as parlé des problèmes de voix que tu as vécu, mais est-ce que t'as consulté pour ça? T'as vu quelqu'un? Tu as reçu de l'aide?
Ben là, moi, je suis pas allée consulter initialement parce que ça avait commencé par un rhume. Donc, c'est sûr que je me sens plus fragile quand je suis enrhumée, là, donc d'où le pourquoi je suis restée à la maison quand j'avais mon rhume. Mais non, j'ai pas consulté, mais j'ai plus... bu beaucoup d'eau, je me suis reposée, donc je savais que j'étais fatiguée aussi, là, quand on parlait du stress tantôt, la fatigue, ça, j'ai senti que c'était des choses qui pouvaient fragiliser ma voix aussi, mais c'est ça, j'ai bu de l'eau abondamment, là, donc des tisanes, puis de rester bien hydratée, là, pour puis d'éviter de parler, là. Je sais que des fois, on a le réflexe de vouloir chuchoter, mais ça, on m'avait dit que c'était vraiment pas bon, là, ça faisait quand même vibrer les cordes vocales, donc... J'évitais de chuchoter, puis j'essayais de tout simplement soit pas parler ou bien de parler plus doucement, puis de parler plus normalement possible, là, même s'il n'y a pas les sons qui sortaient comme j'en ai l'habitude de les entendre. Là. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça les trucs que j'ai utilisés. Puis à l'école, ben comme j'avais mentionné plus tôt, j'utilisais les élèves pour m'aider. J'avais des signes plus visuels que vocaux. Là, donc... C'est des petits trucs que je connaissais, sauf que c'est pas, je me suis pas tournée vers des spécialistes, là. Puis, comme les étudiantes ont mentionné, je suis pas certaine que je saurais vers qui me tourner, si c'était plus, persistant comme problématique.
Moi, j'ai des questions, Krishna. T'as émis beaucoup de conseils qu'on donne de base, là. T'sais, on a parlé d'hydratation, t'as parlé de repos vocal, mm-hmm. t'as parlé d'indices visuels, t'sais, des stratégies de gestion de classe autres que la voix. Tu dis que c'est des stratégies que je connaissais, mais comme t'as pas consulté, mais pourtant c'est des stratégies de base que nous, on a à transmettre à la base aux gens qui viennent nous consulter pour les troubles de voix. Donc, ça t'est venu comme ça de dire « je vais rester hydratée plein ». Comment ça t'est venu?
Ben j'ai mon petit bagage de prof d'éduc, là, donc c'est sûr qu'il y a des choses que c'est par intérêt personnel, je dirais, ou bien par avoir vu d'autres collègues qui ont vécu des situations similaires, donc c'était des concepts qui me semblaient corrects ou bien plausibles.
Et pour toi, ça a eu un effet, effectivement, de t'aider. Moi, ce que je me dis, en tant que personne qui a travaillé longtemps quand même avec la voix, c'est finalement... Quand tu ne vas pas voir quelqu'un pour ton problème, tu ne vas pas savoir quelle était l'origine. C'était quoi l'origine de tes difficultés? Est-ce que c'était une fatigue générale à un moment donné, et puis tu avais une fragilité au niveau des plis vocaux, puis ça s'installe? Est-ce que c'est une manière d'utiliser ton geste vocal qui te prédispose à des pertes de voix? Est-ce que tu as des nodules qui sont des petits nodules qui sont là et que tu compenses dans ton geste vocal, donc tu trouves un équilibre pour le moment, mais on sait pas à quoi tu fais face, à quoi ton système fait face.
Et pour revenir à ce que je vous ai dit là, ben en lien avec l'éducation physique, probablement que mon geste de vocal est pas le meilleur, parce que je me suis rendu compte que justement après mes journées d'éducation physique, là, j'ai toujours ma gourde en éduc, là, en classe aussi, je bois beaucoup, Mais en éduc, là, si je l'ai pas, ça va être fatal. Là. En fin de journée, là, je vais sentir que oh, là, ma voix casse plus facilement. Puis même si c'est subtil, puis moi, je le sais parce que je connais mes limites de ma voix aussi, mais ma portée n'est pas la même à la dernière période de la journée versus la première période du matin. Donc, j'ai vu la différence. Donc, c'est sûr que ça serait probablement bénéfique là, de... Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus sur qu'est-ce que je peux mettre en place là, concrètement.
En amont, hein, Krishna en parlait, tu sais, Dr. Gagnon disait prévention, l'aspect préventif, curatif. Et là, on est plus en prévention, en maintien avec toi. Tu sais, oui, c'est vrai, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que ça serait vraiment bénéfique, là.
Moi, je vous propose qu'on écoute Lynn deux fois. Est-ce que vous vous souvenez de Lynn?
Oui.
Elle était dans notre premier épisode, orthophonie spécialisée en voix. Ultra spécialisée en voix, je dirais, et je lui ai demandé justement c'est quoi les démarches pour une personne qui a un trouble de la voix. Comment ça se fait que les patients se retrouvent dans son bureau à elle? Quel est le parcours qu'ils ont fait? Attention, un petit bout de ligne.
On va avoir vu leur médecin de famille en première ligne, qui va avoir fait une référence en orthophonie et en ORL, ou d'abord en ORL, puis l'ORL va ensuite avoir référent en orthophonie, c'est possible aussi. Mais la plupart du temps, les gens ont une référence médicale. Soit la demande est acheminée directement dans les hôpitaux, ou soit la personne doit appeler elle-même pour dire qu'elle a une référence de son médecin. À partir de ce moment-là, elle est inscrite sur une liste d'attente et dépendant des hôpitaux, dépendant des régions du Québec, il y a des fonctionnements qui peuvent varier, mais il y a un certain temps d'attente. On prend en charge la personne aussitôt que son tour arrive pour une évaluation. Puis, selon l'évaluation, l'orthophoniste détermine, selon les objectifs aussi du patient, de la patiente, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut l'aider. Puis là, on va donner des rendez-vous de suivi régulier qui devraient, selon l'orthophoniste, selon encore les hôpitaux ou les centres de soins ou les bureaux privés, qui vont être soit toutes les semaines, soit aux deux semaines, la plupart du temps. Ça peut être un peu plus éloigné, mais c'est assez fréquemment cette régularité-là. Et on va voir les patients. Pour ma part, je parle toujours d'une première série de 4 rencontres aux deux semaines. C'est 1 heure à chaque fois. La personne vient, ou maintenant on peut être en télépratique aussi. Et après la rencontre, elle a à poursuivre des exercices ou des modifications d'habitudes de vie. Et on se revoit la fois d'après et on continue. Au bout de 3 rencontres, je réévalue toujours brièvement avec la personne où est-ce qu'on en est par rapport à ses objectifs. Moi, je réévalue sa voix, est-ce que je considère qu'elle est fonctionnelle par rapport à ce qu'elle vise. Et puis là, on détermine si on a besoin de reprendre un autre bloc de suivi, si on continue. Je dirais en général, je vois les gens à peu près 8 rencontres pour arriver à résoudre minimalement ou à stabiliser la voix. Ça peut arriver que ça aille jusqu'à 10 de rencontres, plus ou moins. C'est rare que je vais au-delà de 12-15 rencontres, là. Bon, ce qui veut dire qu'entre 2 et 4 mois aux 2 semaines, on a résorbé le problème et la personne est redevenue fonctionnelle puis a intégré des nouvelles habitudes pour maintenir sa santé vocale.
Moi, je vais dire que le commentaire, je suis pas mal dans le même nombre de rencontres que Lynn. Là, pour ma part, dans ma pratique, là, ça va jouer autour de 6 à 8 rencontres. Puis quand je leur dis que c'est un bloc de 6 à 8 rencontres, là, je les vois les yeux en me dire, mais c'est pas en 6 ou 8 rencontres que tu vas enlever mes plein de problèmes. Tu sais, souvent, c'est ça le regard qui dit, tu sais, comme... Ils nous font confiance, ils arrivent à nous parce qu'ils désirent avoir ce changement-là, mais quand on leur dit, ben d'ici 2 à 4 mois, par exemple, tu sais, vous allez être en bon état pour poursuivre. Là. Et là, les yeux, c'est comme si ça fait des années qu'on vit ce problème-là. Et là, toi, tu me dis qu'en quelques rencontres, donc oui, puis en plus, les techniques vocales, de rééducation vocale fonctionne relativement bien. Donc, on le dit pas pour rien, cette donnée-là.
Mm-hmm. Toi, ce que tu dis, Anne-Marie, c'est que les gens peut-être s'imaginent que ça va être une entreprise beaucoup plus longue, épuisante, qui va jamais se terminer, qui va jamais conclure.
Oui, exactement, ou sont tellement pris dans leurs difficultés chroniques. Tu sais, je vais les appeler chroniques parce que tu sais, il y en a qui arrivent dans notre bureau et souvent, ça fait des dizaines d'années, par exemple, qui ont des difficultés vocales. Il y en a qui moins, mais tu sais, il y en a qui peuvent arriver après une dizaine d'années. Donc, c'est sûr que la perception de normalité à ce moment-là, ah, ben, je perds la voix à chaque début d'année scolaire. Okay, mais c'est pas normal, tu sais. Fait que la perception de normalité est encore plus ancrée après le plusieurs années, là. Donc, tu sais, c'est ça. On a l'impression que ça va être l'orthophoniste va nous dire de changer de tout au rien notre façon d'enseigner, de nos habitudes de vie. Puis on s'est fait dire que bon, ben c'était normal justement. En fait, tu sais, c'est ça, cet aspect-là que. Puis je suis contente de savoir qu'il y a d'autres orthophonistes qui le disent. Oui, on va avoir 4 à 8 rencontres, tu sais, 2 blocs de 4, tu sais, peu importe comment on le présente, on est pas mal toutes dans le même. Donc, quand on le verbalise, moi je leur dis. Si ça marchait pas, je vous le dirais pas qu'en 4 rencontres, vous allez voir un changement puis vous allez maintenant prendre le contrôle, tu sais, sur votre santé vocale.
Je trouve ça encourageant, là. C'est encourageant de savoir ça d'entrée de jeu, là, quand on commence une thérapie comme ça.
Et moi, je vous propose d'écouter parce que ça, c'est quand on arrive chez l'orthophoniste. Mais on n'y arrive pas toujours tout de suite.
Exactement.
Lynn, elle a eu un petit moment. On entend comme une petite fatigue dans sa voix ou un petit ton sarcastique quand elle dit « Et puis là, on est mis sur une liste d'attente. » Et alors, cette liste d'attente, le chemin avant de se rendre vers l'orthophoniste, peut-être le médecin qui ne réfère pas tout de suite et qui va aussi minimiser le problème qu'on a. Donc, le parcours, il peut être compliqué justement pour arriver à ce service qui finalement pourrait être aidant avec une certaine rapidité. C'est quoi le discours qu'on doit tenir à son médecin, son médecin de famille, pour être entendu avec ses problèmes de voix et sa volonté de faire quelque chose?
Prenez des notes.
Travailler et d'être blessé et de continuer à se blesser et d'aggraver une blessure, les omnipraticiens ne le feraient pas pour une épaule, ne le feraient pas pour un genou, ne le feraient pas pour un dos. Alors, pourquoi le font-ils pour une voix? C'est pas parce que c'est un organe qu'ils sont pas capables eux-mêmes d'évaluer adéquatement. Les médecins sont des gens en général intelligents. Donc, ils peuvent ne pas connaître quelque chose, mais ils sont capables d'analyser une situation. Et si on leur fait comprendre que, ben écoutez, moi, je travaille avec ça tous les jours et ça va plus, là. Je suis pas capable. Le médecin va supposer la question en disant « C'est bien trop vrai. Qu'est-ce que fait un enseignant? Ça parle toute la journée à une bande de mômes qui font du bruit dans un endroit bruyant qui est une classe. Ça se peut fort bien qu'effectivement, cette personne-là soit plus capable d'exercer son travail au même titre que si c'était quelqu'un qui fait de la pelle et dit « J'ai trop mal aux épaules, je suis plus capable de pelleter. » Et je vais nier avoir dit cela, même si mes paroles sont enregistrées. Ce que déteste le plus au monde un médecin, qu'il soit omnipraticien ou spécialiste, c'est de devoir signer des arrêts de travail et des papiers d'arrêt de travail. Or, si vous dites, « Cher docteur, le problème que j'ai actuellement fait en sorte que je ne suis plus capable de faire mon travail, et qui dit, « Bon, ben, pour acheter la paix, sans, on peut le penser, mais sans le dire, encore une fois, je vais nier avoir dit ça, je vous donne un arrêt de 2 semaines, je vous revois dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le problème est toujours là. Ben là, ça devient, souvent, ça va pousser la référence plus rapidement, mon téléphone va sonner plus vite.
C'est intéressant, hein, cher docteur. Tu sais, tantôt, on parlait de la promotion chez les enseignants, mais c'est comme si la promotion va même plus que chez les enseignants, va chez la population en général, tu sais, justement, que cette fonction-là de notre corps, c'est, on la voit pas, mais elle est aussi importante que les problèmes d'épaule, les problèmes de dos, les problèmes de genoux, etc. Donc, tu sais, c'est intéressant d'entendre ça. Puis souvent aussi, tu sais, on accueille des patients qui sont allés chez leur médecin de famille, qui avaient des problèmes de voix. Leur médecin de famille leur a souvent donné, par exemple, je vais nommer ces médicaments-là sans les nommer, mais on va leur avoir donné des médicaments contre le reflux, en leur disant, OK, t'as mal à la gorge, tu dois faire un petit peu de reflux. Là, les patients vont commencer une médication, puis ils vont voir aucun changement. Donc, tu sais, quand on parle de l'aspect de normalisation, de banalisation, c'est que là, on leur a donné un espoir en leur donnant une médication et qu'il n'y a pas d'effet sur leur voix. Donc, ils vont se dire, ah, ben, c'est normal d'abord que je perde la voix, tu sais. Il m'a donné une pilule, ça me guérit pas. Ou on va leur dire, on va te donner un spray pour le nez, bon, tout ça. Puis, ah, OK, ben, ça me guérit pas, tu sais. Fait qu'on a fait une tentative de guérison et on l'a pas eu. Donc, l'espoir. Donc là, on poursuit, puis là, quelques années plus tard, on jase avec notre médecin, parce que c'est pas vrai qu'on voit nos médecins à toutes les heures, là. Mais, tu sais, donc là, 2-3 ans, on jase, ah, mais tu sais, j'ai encore mal à la voix. Alors, ça fait, bon, on va dire 4 ans, tu sais, quand je parle que les gens arrivent, que ça fait plusieurs années, c'est ça, parce qu'après ça, ils attendent sur nos fameuses listes d'attente. Donc, c'est vraiment la promotion de dire que, tu sais, ça devrait pas attendre un problème d'épaule. J'aime ça quand Dr Gagnon dit on le ferait pas avec un problème d'épaule ou un problème de dos. On n'attendrait pas 4 ans pour régler le problème. Mais avec la voix, pourquoi on l'accepte? Ça, je ne sais pas. Puis en tant qu'orthophoniste, d'entendre ça, ça me brise le cœur.
Je te propose de te briser le cœur un peu plus, Anne-Marie. En te faisant écouter un parcours plutôt difficile aussi d'une personne qui a vécu des troubles de la voix, la personne qui nous parlait dans l'épisode précédent de son histoire de polype, justement.
Il n'y a pas vraiment de démarche par rapport à l'école. J'ai même pas été voir si ça touche peut-être la CNSST, ça je sais pas là. Probablement qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus. J'ai pas fait de démarche en ce sens parce que c'est clairement mon travail le problème. Hein. Ben, le problème, le point de départ de mon problème. Mais moi, j'ai été voir mon médecin personnel de famille qui m'a référé à un ORL ici à Sherbrooke que je suis allée voir. Je l'ai vu pour plus qu'une fois. Puis à un moment donné, quand j'ai dit, là, ça nuit vraiment à ma vie personnelle, puis c'est rendu trop, là, pour moi, je suis plus capable, faut qu'on fasse quelque chose. C'est là qu'il m'a référé à l'hôpital. J'ai été en attente peut-être un an avant d'avoir un contact avec la personne à l'hôpital. Puis là, j'ai commencé à avoir des rendez-vous, plusieurs rendez-vous quand même. Je pense qu'avant l'opération, il y a eu l'infiltration, il y a eu plusieurs petites choses qui ont fait des tests. Je l'ai peut-être vu 4-5 fois avant l'opération. J'ai eu l'opération cet été, puis je l'ai revu au moins 3-4 fois cette année-là. La dernière fois est en janvier, je pense que je l'ai vu la dernière fois, là. Mais là, après ça, il m'a dit, fais les démarches en orthophonie comme il faut, puis si tu veux, t'as encore besoin, tu me recontacteras.
Si, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on entendait aussi Stéphanie qui disait, elle avait d'abord été voir son médecin qui lui avait dit, ben là, on va d'abord attendre, puis après, tu vas venir nous voir pour voir si c'était encore là, puis c'était encore là. Puis elle voit finalement un ORL. L'ORL fait pas non plus quelque chose tout de suite. Et puis finalement, on en vient tout de suite à une intervention chirurgicale. Et en entendant ce parcours-là, moi, je peux pas m'empêcher de me dire s'il y avait eu une orthophoniste 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, est-ce qu'on aurait pu changer ce parcours?
C'est parce que Stéphanie, elle a fini par apprendre à vivre avec son problème. C'est que là, elle se disait, ben, justement, qu'on parlait de la normalité. Ben c'est normal, ça va passer après les vacances. Donc les délais ont été vraiment beaucoup trop longs. Hein.
Puis moi, mes collègues orthophonistes qui vont m'écouter vont me reconnaître puisque moi souvent je dis OK, on retourne sauver des vies, sauver des voix plutôt. Là je me reprends, puis je leur dis sauver des voix. Puis des fois c'est ça justement, Ingrid, tu te dis s'il y avait eu une orthophoniste 2 ans plus tôt, ben des fois moi j'arrive puis je me dis ça c'est pas une voix de sauver. Parce que, tu sais, mon but à moi, profondément, en orthophonie, c'est justement d'éviter le plus possible les actes médicaux, justement, parce que, tu sais, on veut pas que les enseignants se fassent opérer. On veut pas, tu sais, fait que d'entendre des témoignages comme ça, tu sais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, Ingrid, que si l'orthophoniste était probablement arrivé plus tôt dans la vie de cette jeune dame, ben, tu sais, on aurait la problématique. Je dis pas qu'elle serait pas allée en chirurgie, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire peut-être que le problème aurait été autrement et la perception de la problématique aussi. Donc, je trouve ça intéressant, tu sais, de dire que justement, on a vraiment un effort collectif à faire sur la prise de conscience de l'importance de notre voix, peu importe qu'est-ce qu'on fait, mais encore plus quand on est enseignant.
Moi, j'aimerais revenir à ce que tu demandais, Krishna, ta question. Tu disais, t'es là maintenant. Tu n'as pas un papier qui dit « Krishna Martineau a un trouble de la voix ». Tu vois, tu n'as pas une référence d'un médecin. Est-ce que tu es obligé de t'engager dans « je vais aller voir mon omnipraticien, mm-hmm. je vais essayer de le la convaincre que c'est un problème que j'ai pour le moment ou un problème qui s'en vient, qui est sur le bord d'arriver. Je ne suis pas en épuisement vocal maintenant, mais je sens que je dois mettre en place beaucoup, beaucoup de choses pour ne pas y arriver. » Et ça, régulièrement, d'après ce que tu nous dis, tu vois, tu nous parles de cette fragilité vocale que tu as qui est constante. Espérer que l'omnipraticien t'entend, t'envoie vers un ORL. Espérer que cet ORL-là est sensible aux troubles de la voix, t'envoie vers une orthophoniste. C'est long. Ça paraît long. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là, tout de suite, maintenant, Anne-Marie? Est-ce qu'on peut avoir accès aux orthophonistes autrement que par ce parcours-là?
Ben, nous, en tant qu'orthophoniste, on a besoin de travailler avec ces évaluations médicales-là. Donc, nous, on n'accepte pas de références. Malheureusement, là, on n'accepte pas de références qui viennent d'une personne. Mais je te dirais, c'est plate à dire, là. Je pensais pas dire ça ici dans une émission comme ça, mais ça se peut qu'une orthophoniste qui travaille dans un secteur privé, peut-être qu'elle pourrait accepter, et après ça, elle va te référer vers un ORL ou ton médecin de famille, et à ce moment-là, la discussion est peut-être plus facile à entamer parce que tu as une professionnelle qui te soutient. Ce que je dis beaucoup aussi, moi, c'est un petit peu drôle comme processus, mais moi, quand je traite un enseignant, je dis à partir de maintenant, vous êtes une police. OK? À partir de maintenant, vous faites de la prévention sur les troubles de voix. Donc, vos collègues, là, quand ils perdent la voix, vous leur dites non, 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 non. Tu le dis à ton médecin tout de suite, puis tu t'en vas en orthophonie. C'est ça que tu veux faire, tu sais? Fait que, c'est un petit peu ça comme ça que je joue. Mais tu sais, comme moi, je pense que c'est vraiment, tout est dans le discours. Je vais vraiment être en suivre Dr. Gagnon, de dire, tu sais, on va trouver les mots pour convaincre notre médecin, puis ça va être ça, je pense, la meilleure façon d'arriver au bon endroit. Et c'est vraiment ça. J'ai pas d'autre réponse, Ingrid. J'ai pas de meilleure réponse que ça.
Ben moi, j'aime ta réponse de dire, ben oui, il y a aussi des orthophonistes au privé auxquels on peut avoir accès. Si on est protégé par une assurance, c'est évidemment plus simple que si on n'a pas ce soutien-là. Mais de prendre son téléphone, de téléphoner à l'ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, de se renseigner sur les orthophonistes qui pratiquent en voix dans notre région, c'est même plus nécessaire dans notre région parce qu'il y a la télépratique qui a explosé pendant la COVID, un des bons aspects de la COVID. Donc, on peut trouver une professionnelle avec qui travailler malgré tout. Et comme tu dis, qui peut devenir une alliée et qui peut nous soutenir aussi dans le processus, comme aller par la porte arrière aussi pour obtenir une référence et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que effectivement, ici au Québec, les orthophonistes vont pas regarder à l'intérieur de la gorge. C'est un ORL qu'il nous faut pour ça. Un ORL.
Puis,
et un laryngoscope.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense que, justement, tu sais, si les assurances nous le permettent, c'est une bonne façon de le faire parce qu'après ça, nous, en tant qu'orthophoniste, on n'a pas plus de pouvoir, mais je dirais, on a les mots pour convaincre.
Exact. Puis, je le dis ici aussi, on va avoir un épisode qui va porter justement sur ma voix et mes droits. Est-ce que on peut considérer un trouble de la voix comme un trouble professionnel? Et dans ce cas-là, on l'entendait dans le témoignage de Stéphanie, elle disait « Ah, peut-être j'aurais dû m'adresser à la CNSST donc santé sécurité au travail pour avoir du soutien. Elle ne l'a pas fait, mais d'autres l'ont fait et on aura des invités de justement santé sécurité au travail qui viendront nous parler des démarches possibles à faire aussi. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Et dans notre prochain épisode le plus proche d'ici, on va parler plus de... OK, maintenant on a vu comment est-ce qu'on fait les démarches. Qui est-ce qu'il faudrait aller voir? On a compris qu'on peut rentrer dans une thérapie avec une orthophoniste. Potentiellement, il y a des chirurgies parfois avec l'ORL. On a entendu que ça prend entre 4, 8, parfois 10 séances. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sait toujours pas ce qu'on fait. Donc, lors du prochain épisode, je vous propose qu'on rentre plus en profondeur dans qu'est-ce qui se passe une fois que l'orthophoniste a refermé la porte et qu'elle se retrouve en duo avec son patient. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du bureau de l'orthophoniste quand on fait une thérapie vocale?
Mais moi, j'ai bien hâte, Ingrid, parce que là, ça va être vrai. Je vais avoir des réponses qui vont être plus enjouées, hein? Qui vont être plus en accord avec le message que je veux passer.
Mm-hmm.
Et moi, je suis prête à être la cobaye s'il faut essayer des choses.
On a hâte à ça. Rendez-vous pour l'épisode 4 alors. À très bientôt.
Super.
Bye.
Salut.
Vous venez d'écouter le troisième épisode du balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc, en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Dans cet épisode, les animatrices ont énuméré les ressources disponibles pour les troubles de la voix et elles ont mis de l'avant l'importance de la consultation malgré les démarches complexes. La semaine prochaine, nous discuterons concrètement à quoi peuvent ressembler les interventions orthophoniques liées aux inconforts vocaux. Nous vous rappelons également que le balado voix est offert sous forme de formation créditée si cela vous intéresse. Les informations concernant la formation seront dans la barre de description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Bye bye!